Faudrait être fou pour dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pub, elle reste en bas.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Fin prêt pour le marathon de Paris de dimanche prochain? C'est une question qui m'obsède, vous savez.
Oui, je vois bien ça, mais je ne sais pas si ça passionne les auditeurs en tout cas.
Non, mais toute l'équipe de Grand Bien Vous Fasse est derrière vous.
Voilà, il y a un peu de stress et puis de l'excitation aussi.
Allez, ce matin, vous vous intéressez à un célèbre moteur de recherche et à sa manière de recomposer notre identité.
Qu'est-ce que tu fais ici?
Écoute, j'ai trouvé. J'ai vu l'avenir et il est magnifique.
Attends,
pour nous.
Je sais pas ce que tu as trouvé. On peut en reparler plus tard?
Non, on peut pas en reparler plus tard. L'avenir ignore ce que c'est que plus tard.
Qu'est-ce que tu dis? Mais tout l'avenir, c'est justement plus tard. Mais de quoi est-ce que tu parles?
Google.
Google?
Oui, c'est un lieu magique et absolument tout.
Oui, je sais que c'est une entreprise technologique.
Écoute, Google a besoin de nous et Google a envie de nous.
Ah oui?
Oui.
Google a envie donc de ses stagiaires, hein, extrait du film sorti en 2013, et aussi Google a envie de nous donc. Hein. Alors ce film raconte, comme son titre l'indique, le stage de deux losers de la vieille économie au sein de géants de la nouvelle économie, et tout le monde connaît Google. Et puis même dans un récent sondage dont Le Monde s'est fait écho mardi, alors sondage fait par Google, devinez quelle est la marque la plus cool pour les jeunes de moins de 25 ans?
Oui, je sais.
Et ben voilà, c'est Google, évidemment. Google est né avec donc l'Internet grand public il y a un peu plus de 20 ans, en même temps que d'autres grands moteurs de recherche comme Yahoo par exemple, donc entre 1994 et 1996. Et il faut bien commencer par reconnaître que sans Google, le monde numérique que nous connaissons aujourd'hui nous rendrait pas autant de services, et pas de façon si efficace en tout cas avec les différentes fonctions qui y sont liées, Gmail par exemple, Google Maps pour se déplacer, Street View pour voir à quoi ressemblent les rues, ou Google Plus, etc.
Mais Google, c'est d'abord un moteur de recherche.
Oui, alors voilà, c'est sa première fonctionnalité, mais reste à savoir précisément quel est l'objet de cette recherche. Est-ce que c'est l'information ou est-ce que c'est celui qui cherche? Parce que, à travers nos recherches et nos activités en ligne, Google a aussi accès à des informations sur nous, nos comportements, nos goûts. Il y a une sorte de transaction du savoir. Google me donne accès à ce que je veux savoir, mais ce que je veux savoir est aussi une bonne manière d'en savoir un peu plus sur moi. Dans le monde réel, je peux faire l'expérience de l'anonymat assez facilement. Ali, vous prenez le train, vous allez dans une ville à une heure de chez vous, vous vous promenez en centre-ville un samedi après-midi, et donc vous devriez pouvoir être tranquille, et ça pourrait arriver à tout le monde, sauf si vous vous appelez donc Johnny Hallyday ou Florence Foresti. Eh bien, dans le monde, selon Google, cette expérience de l'anonymat n'est plus possible. La navigation est scrutée, collectée, étudiée et identifiée.
Et c'est donc toute notre identité qui change?
Disons que l'enjeu est bien celui de la maîtrise de cette identité. Parce que, comme n'a cessé de le montrer le philosophe Michel Foucault, le savoir est un pouvoir. Le savoir accumulé sur quelqu'un ou sur un groupe de personnes, par exemple à travers la collecte de ces fameuses données personnelles, permet de les classer, de les répartir, de les contrôler et finalement de les assigner à une certaine position et à un certain schéma de comportement normalisé. Le résultat de cette normalisation, c'est ce que Foucault appelle l'assujettissement. Alors assujettissement, dans les deux sens du terme, c'est un double jeu du sujet. C'est à la fois le sujet qui se soumet et en même temps le sujet qui se forme à travers cette soumission. Voilà, Google aujourd'hui vit de cette stratégie d'assujettissement en rassemblant toutes nos traces numériques en un profil auquel nous nous retrouvons identifiés.
Alors, quelle place reste-t-il pour l'anonymat?
Quasiment aucune, du moins dans le monde idéal de Google et des autres géants d'Internet. D'ailleurs, vous avez remarqué, nous passons de plus en plus de temps maintenant, quand on est sur Internet, à nous identifier. Reste alors à penser l'anonymat comme une nouvelle frontière pour notre liberté, au même titre finalement que la liberté ou l'égalité. La reconquête de l'anonymat s'annonce donc comme un des grands combats à venir. Et ce combat, il doit commencer, petit conseil du philosophe, par un petit entraînement métaphysique pour se souvenir que l'identité personnelle ne se réduit pas à notre identité numérique. Que en fait, l'identité personnelle, elle se joue d'abord dans un rapport de soi à soi, avant de se constituer dans un rapport de soi à Google. Retrouver l'anonymat, ça commence donc par refaire de notre identité personnelle et de sa vie intérieure une priorité.